Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut les fous du volant, en attendant la 17e épreuve de la saison qui sera à Singapour, on reçoit cette semaine dans les fous du volant un invité exceptionnel. Je galvaude pas le mot.
Non, complètement. On est d'accord là-dessus. On a une énorme chance d'avoir aujourd'hui Mathieu Dubois,
exactement,
le stratégiste en chef de l'écurie alpine, c'est-à-dire que c'est lui qui décide en direct, tour après tour, je vais dire minute après minute, seconde après seconde, qui regarde tous les paramètres et qui décide du sort.
Destin de Fernando, voilà, Alonso.
Exactement.
Il y a un petit peu de pression quand même.
Et Esteban Ocon.
Exactement. Et de Esteban Ocon aussi, mais j'imagine que voilà. Donc, Fernando, ça doit être un peu plus...
Et dans ces circonstances-là, on se pose beaucoup de questions. On ne comprend pas toujours, oui, mais ces gens-là, les stratèges, comprennent très vite, réfléchissent très vite et prennent des décisions très importantes en quelques secondes. C'est pour ça que c'est excitant et on a envie de savoir un petit peu ce qu'il y a derrière tout ça.
Voilà, justement, comment ça marche? Eh bien, on va rejoindre Mathieu Dubois, qui est donc le chef de la stratégie chez Alpine F1, pour essayer de comprendre, en fait, comment les décisions sont prises au sein de l'équipe française, mais après, on peut extrapoler, évidemment, dans toutes les autres équipes du paddock. Et nous voilà connectés avec Mathieu Dubois, qui est donc le chef de la stratégie chez Alpine F1. Merci beaucoup déjà de nous répondre, parce que c'est ce qu'on disait avec Stéphane, les stratèges sont ultra discrets. Merci beaucoup d'avoir répondu donc à notre invitation. Voilà, première question, elle rebondit un petit peu sur l'actualité qui s'éloigne petit à petit. Comment elle était l'ambiance après le Grand Prix d'Italie et ce problème de fiabilité pour Fernando et cette 11e place ramenée par Esteban?
Ouais, c'était un petit peu morose. Hein, quand on fait un week-end sans points, c'est jamais la grosse fête. Il y a quand même eu un petit sentiment de soulagement, faut le dire aussi, parce que les dégâts contre McLaren auraient pu être beaucoup plus importants. Norris était quand même aux aguets, il y avait Daniel derrière aussi. Il se trouve que les 6 voitures les plus rapides ont fini dans l'ordre. Ils ont un peu une tradition que ce soit pas le cas quand ils sont aux aguets comme ça. Donc pour nous, c'est un petit peu sauver les meubles, enfin damage limitation, comme on dit, comme on dit à Hamilton. un petit peu un soulagement. C'était frustrant comme à plusieurs points de vue. Le premier, c'est sans doute la performance de la voiture qui était un petit peu subpar, en dessous de nos espérances. C'était un peloton très serré, donc pas facile. Et puis il y a eu ces problèmes de fiabilité. En fait, il y a eu deux problèmes de fiabilité. Il y a eu d'abord un chez Esteban, parce que qu'on connaissait depuis longtemps, mais qui nous oblige à prendre une pénalité. On pensait que Monza c'était un des circuits les moins pénalisants pour ça. L'histoire dira si on a fait le bon choix ou pas. Et puis Fernando, ouais, c'est un nouveau problème qui est survenu. Pas un gros problème, mais comme d'habitude, le diable est un petit peu dans les détails, donc ça s'est pas bien passé. Sinon, à part ça, je pense qu'on avait le potentiel pour limiter les dégâts encore plus, peut-être pas aller chercher Norris, mais en tout cas aller mettre les deux voitures dans les points, disons sur une course un peu plus conventionnelle, ça aurait été complètement possible. Ouais.
Stéphane,
alors concrètement, quand on est stratégiste, on a envie de faire la course. Alors quand est-ce que vous avez compris, en fin de course, que le Grand Prix ne reprendrait pas? Et quel est le sentiment dans votre équipe et chez vos collègues aussi sur cette histoire peut-être de drapeau rouge qui aurait pu sauver les derniers tours? Est-ce qu'il y a des propositions sur la table maintenant pour améliorer les choses ou contourner ce problème?
Il y a un petit peu deux aspects. Il y a l'aspect stratégique qui me concerne très directement et puis il y a l'aspect un petit peu plus sportif ou spectateur. Moi, quand je fais la stratégie sur course, mon boulot, c'est vraiment de maximiser les points, Donc, si la course finit sous safety car, à ce moment-là de la course, moi, ça m'est complètement égal. Je veux dire, à la limite, je préfère que ça se fasse si le vent est dans mon sens et que ça ne se fasse pas si c'est l'inverse, parce qu'on est vraiment dans cette optique ultra compétitive d'aller chercher le meilleur résultat possible. Nous, ça a joué, hein, ça joue toujours. C'est un secret pour personne. Quand on s'approche de la fin de course, on commence à considérer un petit peu s'il y a un safety car et qu'on a des opportunités de rentrer, combien de temps ça va durer. On regarde un petit peu l'incident, est-ce que c'est vraiment un gros carton ou est-ce que ça peut se dégager rapidement. Bon, là, il se trouve que Esteban, on ne l'a pas fait rentrer tout de suite. On s'est donné un petit peu le temps de la réflexion et puis on a vite vu que c'était un petit peu c'était un petit peu confus en fait, que le safety car n'était pas là où il devrait être et que ça allait mettre beaucoup de temps, pas à cause de l'incident, mais voilà, à résorber un petit peu l'ordre des voitures, laisser passer les retardataires, etc. Et donc plus on a avancé là-dedans, plus on s'est dit ça sert à rien de le faire rentrer parce que ça risque de pas repartir. Bon, de toute façon, on était hors des points si on restait dehors, mais on s'est dit qu'il peut toujours y avoir une pénalité de 5 secondes, etc. Si on rentrait, on se remettait encore plus derrière. Donc, ouais, c'est un petit peu ce type de, voilà, ce type de décision. Après, sur l'aspect plus sportif et spectacle, oui, il y a bien sûr eu des discussions suite à Abu Dhabi. C'est des discussions qui ont été initiés il y a très longtemps, je crois, suite à un Monaco qui s'est fini sous safety car. Et évidemment, bon, c'est jamais très, très souhaitable. Après, les règles, elles sont quand même relativement claires pour un incident comme ça. Effectivement, on pourrait déployer le drapeau rouge, laisser un peu de temps à tout le monde de souffler et ce que la course reparte. Par contre, c'est délicat parce que ce n'est pas ce que les règles disent. Et puis, bah, si ça profite à certains et que ça en désavantage d'autres, il y aura toujours quelqu'un pour élever avant en disant mais voilà, comment ça se fait? On a mis un red flag, ça aurait dû être un safety car. Donc, ouais, c'est des débats qui vont très certainement revenir sur la table côté sportif. Il n'y a malheureusement pas de vraie solution générique parce que c'est toujours un petit peu des cas spécifiques et puis qui. Faut pas ni toujours dans le sens du sport, ni toujours dans le sens des équipes. Donc c'est des problématiques délicates. Il n'y a pas vraiment de vraie réponse. Là, bon, ils ont suivi les procédures. Effectivement, il y a eu un petit hic dans le sens où le safety car a pas tout de suite
trouvé sa place.
Il a trouvé sa place. Mais bon, ça fait partie aussi de la course. Hein. Je veux dire, ils sont pas le race control. Ils ont un job difficile. C'est pas toujours parfait non plus, quoi.
Mathieu, j'aimerais bien que vous nous expliquiez, on va commencer tout à fait dans le didactique, comment est organisée une cellule de stratégie. Déjà, peut-être quelques chiffres, combien vous êtes chez Alpine, je sais pas si c'est un élément stratégique, combien vous êtes, combien de personnes vont sur les circuits, combien éventuellement restent du côté de Enstone pendant les Grands Prix, voilà, ce genre de choses. Déjà, les grandes lignes.
Ouais, alors dans les grandes lignes, on est un groupe de 5 personnes, dont 4 sont très directement opérationnels, c'est-à-dire qu'ils travaillent les week-ends, quoi, vendredi, samedi, dimanche, le jour des Grands Prix. Il y a une personne qui est sur piste, donc pour le moment moi, mais ça a vocation à changer un petit peu. Et puis il y a 2 personnes qui sont chacun focus sur une voiture, donc on a, on pourrait dire, un stratège par voiture, même si chacun essaie de, voilà, de garder un petit peu une image de la course avec un peu plus de recul. Et puis une personne qui est un peu en background, un peu comme le mécanicien navigant à l'époque des 747, voilà, qui s'assure que tous les systèmes sont opérationnels, qu'ils soient alimentés avec les bonnes données. Qui réagissent s'il y a un problème, etc. Donc voilà comment on est organisé. Ces 3 personnes-là, ils sont à Enstone, hein, donc en Operation Room ou Mission Control, suivant l'appellation des équipes. Nous, on appelle ça Ops Room, Operation Room. Et on a les possibilités de communiquer vraiment très en direct avec des systèmes d'intercom. C'est presque comme s'ils étaient sur place.
Alors concrètement, quand est-ce que commence la première réunion sur cette question de stratégie et qu'est-ce que vous avez comme outil pour déjà simuler en fait les différents scénarios prévisibles d'une course en amont.
Si on prend l'exemple de Singapour qui arrive, par exemple.
À Singapour, on est déjà en train de travailler dessus. Ça s'est un petit peu raccourci, la timeline hein, de travail après et pendant la période Covid, parce que avant ça, on devait choisir le nombre de pneus de chaque gomme qu'on souhaitait, et pour des problématiques logistiques, Pirelli demandait ça très en amont, typiquement 3 mois avant pour des grands prix outre-mer ou un petit peu plus d'un mois pour des grands prix en Europe. Maintenant, c'est eux qui font complètement la sélection. Suite à cette période Covid où on ne savait jamais vraiment sur quel Grand Prix on allait aller, puis ça c'est resté. Donc on a moins cette problématique-là. Malgré tout, je dirais une semaine, 10 jours, voire 2 semaines avant le Grand Prix, il faut quand même qu'on s'entende avec les ingénieurs, avec les pilotes, pour savoir un petit peu comment on va organiser le programme d'essai du vendredi. Par exemple, quel type de gomme on va utiliser, parce que bien sûr ça a des implications stratégiques lors du week-end. Quels sont nos scénarios privilégiés, lesquels on laisse ouverts a priori, lesquels on peut fermer directement. Donc tout ça, c'est des questions qui se discutent un petit peu la semaine d'avant. Ça converge un petit peu, en tout cas pour la préparation du week-end, le mercredi, jeudi d'avant le week-end, parce que là, on en discute un petit peu plus avec les pilotes, éventuellement avec les dernières simulations. Il peut y avoir la météo qui commence à se mettre dans la partie. Et puis en fin de saison, il y a aussi souvent des problématiques sportives, c'est-à-dire avec qui on se bat, quelle approche on a, est-ce que on doit prendre des risques à tout prix parce que de toute façon ça va être compliqué, ou au contraire est-ce qu'on a une petite avance à gérer et donc on préfère des approches un peu plus safe. Voilà, c'est ces problématiques-là qu'on discute. Et ça se passe avant même que la voiture fasse un tour de roue, bien sûr.
Alors moi, j'aimerais bien savoir jusqu'où s'étend finalement votre domaine de compétences, vous, en termes de stratège, parce que si on prend un exemple, en faisant jouer un petit peu la pression sur les pneumatiques, ça va forcément jouer sur leur usure, donc sur la stratégie. Est-ce que vous avez votre mot à dire sur les pressions de pneus, sur les rythmes que doivent adopter les pilotes, jusqu'où vous pouvez aller, ou est-ce que c'est plutôt le team manager qui vous dit voilà, on va faire telle stratégie, on a tels éléments, on va pouvoir rouler et tant, faites-nous une stratégie, ou ça échange, comment ça se passe?
Ouais, ça échange, effectivement, je crois que c'est le bon mot. On a un petit peu un rôle de coordination, c'est-à-dire d'essayer tout d'abord que l'ensemble des gens qui travaillent dans l'équipe, le pilote, son ingénieur, mais aussi les ingénieurs des pneus, du moteur, tout le monde soit un petit peu aligné sur l'approche, c'est-à-dire par exemple, est-ce qu'on va privilégier la qualification ou la course? Ça peut être une des premières questions. Les pneus, quel type de pneus on va employer? Est-ce qu'ils vont être destinés à faire un relais plutôt court, chargé en essence, ou plutôt des relais longs? Est-ce qu'il faut privilégier tel type de gomme et puis se dire, par exemple, hard, on va pas chercher spécialement à le faire marcher parce qu'on l'a pas trop dans le radar, ou au contraire, ça nous arrangerait bien qu'on sache le faire fonctionner parce qu'il peut y avoir des scénarios où c'est intéressant. Donc tout ça, il faut que tout le monde soit d'accord. Effectivement, il peut pas y avoir d'antagonisme là-dedans, parce que si le pilote dit « moi, ça, ce que tu me demandes, je saurais pas faire », ou si l'ingénieur dit « bah ouais, mais si moi, je fais marcher… si j'optimise la voiture dans un certain scénario, ça va être au détriment de l'autre ». Voilà, donc ça, c'est des discussions et Le principal, c'est de converger vers une ou plusieurs approches possibles. Mais effectivement, il y a un petit rôle de coordination là-dedans.
Il y a des paramètres aussi qui peuvent changer. Quand la FIA, sur un premier jour de compétition, décide de réduire la vitesse autorisée dans la pit lane de 80 à 60 km/h, j'imagine que ça vous impacte beaucoup. On voit aussi cette année la question de l'efficience du DRS sur certains circuits. Ça doit beaucoup vous influencer dans vos choix. Et quand est-ce que finalement la dernière réunion en termes de stratégie a lieu? Est-ce que c'est le samedi soir? Est-ce que c'est le dimanche matin? Nous, on regarde aussi ce que préconise Pirelli. Et on a du mal à s'y retrouver parce que ça change du samedi soir au dimanche matin. C'est un casse-tête.
On veut bien un cours de rattrapage.
Ouais. Bon, la stratégie,
C'est un ordinateur qui produit le résultat ou c'est vous qui parvenez à une synthèse, à une conclusion ?
On a effectivement beaucoup d'ordinateurs qui tournent avec beaucoup on a beaucoup de moyens de simulation en fait. Donc, si il y a des paramètres qui changent, bah, on évalue l'impact vite hein, sur les stratégies.
Vous faites combien de milliers ou de millions de scénarios pour une course ?
Et en course, si on s'appuie sur des méthodes statistiques, typiquement, à chaque fois qu'on a une nouvelle information, on va lancer des batchs, enfin des paquets pour que ce soit statistiquement crédible, typiquement 50 000 courses, quoi.
Wow.
Et ça, c'est à chaque fois qu'on a un nouveau secteur, une voiture qui rentre. Voilà, à chaque fois qu'on a connaissance d'un événement, donc typiquement, ça peut arriver quelques fois par seconde, une dizaine de fois par seconde. Voilà, c'est l'ordre de grandeur des nombres de courses sur lesquelles on travaille, purement pour avoir des résultats statistiques. Après, en général, on a deux ou trois plans un peu primaires, on va dire un arrêt, deux arrêts, on s'arrête tôt, on s'arrête tard. On a des plans alternatifs si des conditions sur lesquelles on comptait ne sont plus réunies. Et puis après, on a évidemment toutes les simulations de safety car, de virtual safety car, qui tournent derrière aussi pour nous alimenter.
Moi, j'aimerais bien savoir, Mathieu Dubois, quelle stratégie vous a rendu le plus fier? Est-ce qu'il y a une course où là, vous vous êtes dit, là, on a vraiment bien géré notre coup? Alors, je ne sais pas, peut-être la Hongrie en 2021, la victoire de Esteban Ocon, ou je ne sais pas, une autre une stratégie où là, vous avez dit, bon, là, on a fait du bon job.
Ouais, alors il y a un petit peu deux aspects qu'il faut distinguer. Il y a l'aspect résultat.
Ouais.
Quand on fait un bon résultat, en général, on est content, l'équipe est contente. Et puis il y a l'aspect, voilà, est-ce qu'on a fait entre guillemets le meilleur, est-ce qu'on a donné le meilleur de soi-même, est-ce qu'on a fait le meilleur résultat possible, même si le meilleur résultat possible c'est septième par exemple. Donc dans l'histoire récente, Zandvoort, c'était une bonne course parce que après la course, on se dit on a beau retourner le problème dans tous les sens, voilà, on ne pouvait pas faire mieux que ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc ça, c'est des courses où on sort en général purement en tant que stratège, hein, je ne vais pas dire en tant qu'équipe, ou, parce que si la voiture n'est pas capable d'aller chercher le podium, bon, bah, voilà, il faut faire avec ça. Mais les courses où on sort en se disant que ce n'était pas possible de faire mieux aujourd'hui, bon, bah, ça, c'est satisfaisant. Ouais, la Hongrie, c'était bien, effectivement. Ça a marqué un petit peu un tournant, j'allais dire, dans l'équipe, à un moment où on se cherchait, ça a donné un nouveau souffle. En plus, c'était avant les vacances, c'était sympa. Mais bizarrement, ce n'est pas une course où voilà, j'ai eu l'impression de donner beaucoup de sueur, quoi. C'était
les calls, ils étaient... C'est pas sur la stratégie trop que ça s'est joué, en fait. Enfin, ou alors, c'était la stratégie Bottas.
C'est... Ouais, il y avait le fallait rentrer évidemment tôt pour mettre les pneus slick, mais bon, la piste était sèche, donc là il n'y avait pas quand même trop de questions à se poser. Et puis après, c'était une course un petit peu en un arrêt, il fallait gérer, réagir à Vettel, donc elle n'était pas très compliquée cette course-là.
Mais c'était l'illustration quand même que une course se joue sur des outils, et là en l'occurrence c'était la radio. La radio est interdite pendant le tour de formation entre le team et le pilote. Et Hamilton n'avait pas eu cette information que tout le monde allait rentrer. Lui, il était là pour faire la course.
Ça, c'était
et
incroyable.
Tous les autres étaient là pour rentrer au deuxième départ. C'est ce qui a fait la différence. C'est juste incroyable. Et par rapport à ces questions-là ou ces outils, j'avais aussi une autre question. Je me souviens d'un couac chez Mercedes, Monaco 2015. Ils pensent que Lewis Hamilton a suffisamment de temps pour rentrer, faire un arrêt, on va dire, de confort pour terminer tranquillement. Il leur manque 2 secondes. Il ressort juste en troisième position au lieu d'être au premier. Et à l'arrivée, en fait, Toto Wolff dit, nous, on avait un problème de positionnement de la voiture, de savoir exactement où est-ce qu'elle était sur la piste, parce qu'à Monaco, il n'y a pas de GPS. Alors, est-ce que ça, c'est un problème qui perdure encore aujourd'hui? Est-ce que c'est spécifique à un environnement urbain où les transmissions sont difficiles? Et est-ce qu'il y a des circuits comme ça sur lesquels vous êtes un petit peu sur un fil en termes de communication où il y a des difficultés particulières?
Oui, alors c'est vrai que le GPS a pris beaucoup d'importance dans nos simulations, dans nos analyses. Le positionnement au pit stop, ça fait assez longtemps hein, qu'on l'a disponible. Je crois que c'est depuis peut-être des années 2010 où c'est le race control qui a commencé à utiliser ça. C'est vrai qu'il y a des circuits où c'est la qualité du signal est particulièrement mauvaise. Monaco, bah, il y a le tunnel déjà, donc ça, en général, ça passe pas là. Mais c'est vrai que peut-être à cause de l'emplacement un petit peu encaissé, on a souvent un petit peu des sauts sur le circuit, comme des sauts de cartes, hein, et on a du mal à faire une idée précise de où se situe la voiture exactement. Ça, c'est un phénomène connu. Donc, il y a plusieurs possibilités pour essayer de s'améliorer. D'abord, il y a des endroits dans le circuit où on a la position exacte, les secteurs, etc. Il y a des tours de référence et des systèmes un petit peu de backup sur lesquels on peut s'appuyer. Mais la vraie réponse, c'est un petit peu l'incertitude qu'on se donne sur le temps de stop. Et je crois que c'est là que Mercedes a un petit peu changé ses méthodes et puis ses marges de manœuvre sur les arrêts, notamment sous safety car. Ouais, c'est des phénomènes qu'il faut prendre en compte à Monaco et puis à d'autres endroits aussi où c'est un petit peu plus. Le signal est un petit peu plus bruité, donc faut faire attention.
Là, on se prépare, enfin, vous préparez pour le Grand Prix de Singapour, sachant qu'on n'y est pas allé justement depuis l'épisode du Covid, que c'est un circuit en ville. Comment est-ce qu'on arrive à simuler, je ne sais pas, l'évolution de l'asphalte et donc d'anticiper une stratégie? Ça doit être une des destinations quand même les plus complexes de la saison, ou je me trompe?
Ouais, en fait, les circuits urbains en général, c'est souvent compliqué parce que c'est des courses qui peuvent être avec beaucoup de rebondissements, beaucoup de safety cars et où enfin, il y a des échanges de positions extrêmement importants. On peut se retrouver dans le lead et puis dernier parce que on fait un arrêt et que c'est juste après sous safety car qu'on a loupé le créneau. C'est un peu des grands prix, il y a un petit aspect tombola, hein, c'est-à-dire que quelquefois on prend des décisions en se disant bah on prend cette décision parce qu'on pense que il y aura pas de safety car bientôt ou parce qu'on prend ce risque-là qui est mesuré et puis la marée peut se renverser complètement et disons la prise d'options s'avère payante ou pas, donc c'est des grands prix un peu stressants surtout avec deux voitures à gérer en même temps. Singapour, on a quand même, bon, on a déjà couru là-bas avec, disons, la même génération de pneus d'avant, donc les 13 pouces. On arrive un petit peu à trouver quand même notre chemin avec l'historique qu'il y a eu à Singapour, avec l'historique qu'il y a eu cette année, en se référant à des circuits un petit peu similaires, donc typiquement, ouais, des circuits urbains ou pseudo-urbains sur lesquels Pirelli amène ce même type de gomme, donc assez tendre. Les circuits type Bakou, Monaco, justement, on arrive un petit peu à savoir, ou disons, à avoir une première idée de comment vont se comporter les pneumatiques. Mais c'est vrai que c'est des questions qui souvent sont un petit peu presque secondaires, par rapport aux événements de course qui peuvent se produire, aux calls qu'il faut prendre sous safety car, sous virtual safety car, et ça peut vraiment changer la donne. Mais c'est vraiment spécifique à Singapour, c'est vraiment spécifique à cette typologie de circuit urbain qui est très propice aux incidents de course.
Alors vous avez évoqué les pit stops, c'est aussi une arme hein, du stratège que vous êtes. Ces dernières années, on n'avait pas constaté que le pit crew d'Enstone courait après les records, c'était plutôt Red Bull. Et là, cette année, quand même, on voit apparaître un phénomène nouveau chez vous. C'est trois interventions les plus rapides du dimanche à Bakou, à Silverstone et à Spa pour Fernando Alonso. Est-ce que vous avez milité finalement pour ça, pour cette plus grande agressivité ou cette capacité à prendre plus de risques, je dirais? Et puis, ce qui m'interpelle un petit peu, c'est que quand je regarde les chronos, en fait, Bakou, c'est 2,74, et puis vous descendez à 2,22 à Spa. Une demi-seconde, pour moi, ça me paraît gigantesque, je dirais. Est-ce que ça s'explique d'une façon ou d'une autre? Et est-ce que vous êtes satisfait maintenant d'être beaucoup plus dans le match lors des interventions au stand?
Ouais. Alors, curieusement, on a eu un peu l'approche inverse, en tout cas réglementairement, on a essayé un peu de militer pour mettre le holà sur tous les systèmes électroniques qui permettaient de faire des pit stops à la vitesse de la lumière, des pit stops à la Red Bull pour pas les nommer. Donc on a essayé plutôt de rapprocher la concurrence de ce qu'on faisait nous. Et notre approche, elle n'a pas fondamentalement changé. C'est-à-dire que nous, au pit stop, on se dit, ce qu'il faut, c'est être constant. Si le pit stop il fait 2 secondes 7 au lieu de 1 seconde 9, en général, ça nous coûte pas. On fait souvent les calculs rétrospectivement sur une saison, où est-ce qu'on a perdu, où est-ce qu'on aurait pu gagner. En fait, ce qu'il faut, c'est éviter le pit stop à 5 secondes, 6 secondes, voilà, éviter les confusions. Et en fait, il se trouve probablement qu'en s'entraînant vers cet objectif de constance, et ben finalement, quand tout le monde met les choses bout à bout, il y a quand même presque, je pense, je dis ça le chiffre comme ça, mais il y a 14 personnes qu'il faut opérer en même temps dans un laps de 5 secondes avec une voiture qui arrive quand même à 80 km/h. Donc essayez, je sais pas, de faire l'exercice avec 3 amis, de faire un truc coordonné en moins de 5 secondes dans des conditions qui sont compliquées. C'est extrêmement difficile. Mais quand tout le monde y arrive, en fait, ça se passe bien et le pit stop, en fait, il est rapide. Donc, nous, c'est un peu cette approche-là qu'on a eu, qu'on essaye d'avoir, de faire des pit stops clean. Et il se trouve que quand tout le monde se rapproche de l'optimum, ça fait des pit stops plus que clean, quoi. Mais c'est pas ce qu'on recherche en premier. On ne cherche pas à faire des pit stops foudroyants parce que si on cherche à faire ça, ce qui se passe malheureusement fréquemment, c'est qu'il y en a un qui fait 5 secondes et en fait c'est là qu'on perd.
Moi, j'aimerais bien savoir, parce que j'imagine que vous débriefez après chaque épreuve, voir exactement ce qu'ont fait les adversaires. Dans vos alter ego stratèges, il y a des gens qui vous impressionnent, qui font de très belles performances régulièrement. Alors, vous le disiez tout à l'heure, forcément, quand on part de la pole position et qu'on arrive cinquième, on fait un meilleur résultat que si on termine huitième, mais la stratégie, elle est peut-être meilleure si on est parti quinzième et qu'on est revenu huitième. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de nous répondre, bah, c'est Red Bull les meilleurs. En termes de stratégie, est-ce qu'il y a des équipes qui où vous dites qu'ils sont vraiment, vraiment forts?
Ouais, c'est des choses qu'on regarde, hein. Déjà, on regarde les stratégies de tout le monde après un Grand Prix. On se dit, voilà, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, pourquoi ils ont pris ces choix-là. C'est difficile de décortiquer vraiment l'aspect stratégie de l'aspect performance de la voiture parce qu'évidemment, quand la voiture est extrêmement dominante, qu'on fasse un arrêt ou trois et qu'on finit avec 30 secondes d'avance de toute façon, ça rend les choses beaucoup plus faciles. Malgré tout, il y a des choix qui peuvent être faits un peu plus audacieux ou un peu plus conservateurs. J'ai pas fait de calcul précis, mais malgré leur domination actuelle, et ce qui était moins vrai en début d'année, je trouvais que Red Bull, ils sont quand même, ils déploient des tactiques qui sont audacieuses, avec des risques mesurés, la plupart du temps payants. Donc ouais, je trouve qu'ils se débrouillent bien. Ils ne sont pas tout à fait dans le même contexte que nous, dans le sens où souvent c'est des batailles un peu à deux, à trois, alors que nous on est dans un midfield. Souvent, voilà, il faut choisir un peu son cheval parce qu'on se retrouve avec quelquefois 6, 7, 8 ou plus de voitures en contention. Et donc là, les enjeux ne sont pas les mêmes, les techniques ne sont pas les mêmes, et puis les prises de risque aussi ne sont pas forcément les mêmes. Mais en tout cas, ouais, je trouve qu'ils ont une bonne approche cette année. Qui a progressé il y a quelques années en arrière quand ils sortaient un petit peu de la domination Vettel. Je trouve qu'ils ont eu un petit peu de mal à se remettre dans le peloton. Et là, c'est probablement des efforts qu'on payait chez eux. J'ai pas d'action hein, chez Red Bull, mais non, non, je trouve qu'ils opèrent bien.
Stéphane, la dernière question.
Oui, je voudrais savoir qui a le final cut dans toutes ces décisions que vous prenez, dans toutes ces options que vous proposez, quelle est la part de décision des pilotes dans toute cette histoire de Fernando et d'Esteban? J'en viens assez souvent à ce qui se passe, par exemple, à Spa. Je voulais savoir si ce circuit est votre rêve ou votre cauchemar, si c'est le plus long du championnat. Et souvent, il pleut à une extrémité du circuit, c'est sec à l'autre. Et c'est le pilote souvent qui prend la main parce que c'est lui qui ressent les choses et c'est lui qui va peut-être faire les choix à votre place, entre guillemets. Mais ça, c'est peut-être une exception, peut-être aussi comme Sao Paulo. Mais comment décidez-vous dans le cœur de l'action?
Ouais. Alors ça c'est les scénarios que vous décrivez, c'est les scénarios qui sont un peu le cauchemar du stratège comme du pilote d'ailleurs. Il faut être extrêmement connecté, c'est-à-dire que le pilote, lui, il a des infos et des ressentis que nous, on n'a pas. Et donc, il faut capter. Et à contrario, nous, on a des infos que le pilote n'a pas et qu'il faut soit lui communiquer, soit qu'il nous fasse confiance. Et je dirais, il n'y a pas vraiment de... Il ne faut pas laisser le pilote choisir ou pas laisser le stratège choisir. Mais en fait, il faut réussir à capter et à mettre ensemble ces deux éléments d'information pour prendre la bonne décision. C'est pas la peine qu'un stratège dise à un pilote « Écoute, reste dehors parce que la météo va s'améliorer. » Si le pilote il dit bah, « Moi, le prochain tour, je mets la voiture dans les graviers, c'est impossible que je reste en piste. » Donc ça, c'est sûr que c'est pas la peine de faire ça. Après, le pilote, quelquefois, il a des ressentis, il se dit « Ouais, mais ce pneu-là, il est au bout, il faut rentrer, etc. » Mais il y a des configurations stratégiques qui font qu'en fait, on voit clairement que le bon move, c'est de rester dehors. Et donc, c'est ça qu'il faut essayer de lui communiquer. Après, quelquefois, il y a des décisions qui sont un peu plus 50-50, où là, bah, justement, c'est lui qui peut faire le cut, parce qu'on lui dit « Écoute, nous, on pense que voilà, il faut rentrer, aller sur le prochain pneu, ou alors, au contraire, on pense que s'il y a un safety car, il faut rester dehors, tu conserves ta position. » Et lui, il va dire « Non, non, je pense que c'est pas bon. » Mais s'il a tous les éléments et qu'il vient contre nous, là, effectivement, il peut prendre la décision. Et je crois que l'essentiel, c'est vraiment de mettre bout à bout ces deux morceaux de puzzle. Et parfois, il faut le faire très vite pour arriver à la bonne décision. Il n'y a pas vraiment de magicien qui va dire « Voilà, c'est ça qu'on fait parce que... » C'est ça le bon cut. Il faut arriver à s'entendre et à prendre ensemble le bon call, on va dire, avec les bonnes infos. C'est un peu la difficulté de l'exercice. Et si possible, dans le calme.
Alors, question... la vraie dernière question cette fois.
Une question vraiment bonus track. La dernière question qui s'est présentée un petit peu au Grand Prix de Hongrie cet été. En fait, Haas fait passer les pneus durs à ses deux pilotes, puis vous ensuite sur vos deux voitures. Et tout le monde constate que ça ne fonctionne pas bien, je dirais. Et on s'étonne que Ferrari monte les pneus durs sur la voiture de Leclerc, qui réclamait des pneus médiums. Et puis après, donc ça ne fonctionne pas. On s'est dit, mais voilà, ça ne fonctionnait pas sur Alpine. Pourquoi l'ont-ils fait? Et McLaren l'a fait aussi ensuite avec Norris. Alors la question, c'est... Quand vous voyez en fait une écurie prendre des pneus et que ça ne fonctionne pas, dans quelle mesure vous dites-vous, faut pas y aller? Voilà. Si c'est une Haas et que ça ne fonctionne pas, on se dit, il y a quand même un doute. Peut-être si c'est une Red Bull, on dit, là, faut pas y aller. Mais quel est le point de croisement et quelles sont vos écuries de référence? Est-ce qu'il y a une voiture sur le plateau qui ressemble un petit peu en termes de comportement à l'Alpine et qui vous sert un petit peu d'indicateur?
Ouais, c'est une bonne question parce qu'effectivement, c'est des informations qu'on regarde de très près en course. Sur cette course-là en particulier et sur ce pneu-là en particulier, en fait, la gomme C2 là, on commence à se rendre compte qu'elle est assez susceptible à la température. Donc température de piste, mais aussi température au final de fonctionnement. Évidemment, on ne sait pas à quelle température les écuries opèrent, mais il peut y avoir des conditions où ce pneu-là il est un petit peu sur le fil. Et donc effectivement, une voiture plus rapide, potentiellement avec plus d'appui, aura plus de facilité à le mettre dans la fenêtre, et des voitures un petit peu plus en queue de peloton, potentiellement moins. Plus on a de voitures dessus, et plus on se dit, bah oui, là, le pneu, visiblement, il fonctionne pas. Malgré tout, parfois, ça reste, entre guillemets, je vais pas dire le bon choix, mais en Hongrie, en fait, l'erreur de ceux qui ont mis le hard, en fait, l'erreur, c'est de ne pas avoir gardé de médium pour la course et donc d'avoir fait la qualif avec 5 soft. Mais il y avait beaucoup d'écuries qui étaient dans ce cas-là, nous compris, McLaren compris, je crois. Et donc, en fait, l'erreur, elle a été commise le samedi, pas le dimanche. Mais sur cet aspect d'observation, c'est effectivement compliqué. On met des poids un petit peu différents, notamment dans les simulations sur... peut être le comportement du hard ou d'un autre pneu qu'on, qu'on monitore. Bon, pour ça, on utilise aussi des marges d'incertitude dans les simulations qui nous disent, si le pneu il est bien, c'est comme ça que ça va se passer. S'il est une demi-seconde ou une seconde quasiment plus lent, voilà comment la course va se dérouler. Effectivement, c'est plus ce pneu-là dans ces conditions-là qui était vraiment très variable qu'une écurie en particulier, j'allais dire. Et puis bon, les choix, ils sont faits aussi pas que en course, mais un petit peu en qualif la veille.
Merci beaucoup, Mathieu Dubois. C'était ultra intéressant, honnêtement. On pourrait rester 2 heures à vous écouter. À chaque réponse, en fait, ça nous ramène à des circonstances de course. On se dit, ah oui, mais alors attends, alors ce jour-là et tout. Franchement, je pense qu'on peut faire... la prochaine édition des 24 heures du Mans, si vous voulez, on parle stratégie pendant 24 heures avec vous.
Pendant 24 heures. Ouais,
j'ai expliqué à mon petit garçon de 9 ans qu'on allait justement interroger quelqu'un qui s'occupe de la stratégie en course. Il m'a dit, mais il doit être super fort au Monopoly. Vous avez déjà perdu au Monopoly, Mathieu Dubois, ou pas?
Non, en général, je renverse le plateau avant parce que je déteste perdre.
Ça, vous n'avez pas le droit de le faire en Formule 1, ça coûte trop cher. Merci beaucoup.
Merci infiniment.
En tout cas, c'était Merci à vous. Hyper ouais, intéressant.
Riche, intéressant.
Merci
Très
beaucoup.
Intéressant.
Et bonne chance pour Singapour.
Merci, on en aura besoin.
Alors, c'est la bonne stratégie quand il faut s'occuper. Salut.
À bientôt, bonne journée.
Bon, écoute, voilà, on en sait un petit peu plus sur la façon dont
on sait presque tout.
Dont on gère les faits de course, comment on anticipe. Et ce qu'on comprend, c'est qu'effectivement, hein, ce que nous disait Mathieu, la stratégie de la course, elle commence dès le samedi en qualification avec les pneus qu'on passe. Et c'est vrai qu'on l'a vu à plusieurs reprises là sur les derniers Grands Prix, avec par exemple un Max Verstappen qui arrive à se ménager un train de pneus soft en qualification parce que la voiture est suffisamment rapide pour en garder pendant la course. Et ça, c'est une carte en plus dans le jeu des stratèges.
Oui, on regardera un petit peu plus les packs de pneus disponibles le samedi soir pour comprendre ce qui se passe. Mais c'est vrai que Mathieu Dubois fait peut-être le métier le plus excitant pendant une course même parce qu'il est réactif. Il faut être imaginatif aussi, il faut prendre des risques. Jouer un petit peu avec tous les paramètres, il y en a énormément. C'est une partie d'échec à 300 km/h, un Grand Prix tout simplement.
Et il disait 50 000 scénarios de course finalement moyenne.
Il y avait des milliers de paramètres. C'est juste gigantesque, effectivement, pour aboutir à quelque chose qui peut être très très satisfaisant et gratifiant, même pour une 8e place. Une stratégie peut être absolument brillante.
Exactement.
C'est ça qui est bien.
Voilà donc un fou du volant qui sort un petit peu de l'ordinaire aujourd'hui. Hein. Ça ressemble pas du tout à ce qu'on fait habituellement, mais voilà, on avait l'occasion. Moi, honnêtement, j'ai jamais entendu un entretien long format avec un responsable de la stratégie en Formule 1. Merci d'ailleurs, Stéphane, parce que c'est toi qui as beaucoup
On remercie Alpine,
oui.
F1 Team.
Mais nous, on te remercie toi aussi, voilà. Parce que là, tu as beaucoup travaillé pour avoir cette interview. Et puis, on se retrouvera la semaine prochaine. On reprendra un format un petit peu plus normal pour nous mettre en condition avant ce Grand Prix de Singapour. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Cap sur Singapour. Et d'ici là, Stéphane,
on coupe le contact.